Donc on va procéder à l'appel par la direction des affaires juridiques et je vais demander à Jean-Louis Dariotor s'il veut bien être le secrétaire de séance. Allez, il est d'accord. Donc sans plus tarder, je vous laisse la parole pour l'appel. On y va.
Monsieur Pierre Mallet, absent, donne pouvoir à monsieur Joël Bonnet, madame Marie-Christine Lamotte, monsieur Jean-Yves Parronneau, monsieur Christian Senet, monsieur Dominique Clavet, absent, donne pouvoir à monsieur Jean-Louis Dariotor, madame Jeannette Delettré, absente, donne pouvoir à madame Marie-Christine Lamotte, monsieur Frédéric Carrère, monsieur Jean-Marie Esquier, monsieur Guy Sibu, monsieur Jean-Paul Alire, absent, monsieur Jean-Pierre Allais, monsieur Claude Coumat, absent, donne pouvoir à monsieur Yves Parronneau, madame Catherine Demême, monsieur Charles Daillot, monsieur Hervé Bayard, madame Muriel Croze, absente, donne pouvoir à monsieur Antoine Vigneault-Tuquet, monsieur Bertrand Tortigue, madame Marie-Christine Bourdieu, madame Geneviève Dariussec, absente, donne pouvoir à monsieur Charles Daillot, madame Chantal Davidson, monsieur Farid Eba, madame Eliane D'Arteiron, monsieur Antoine Vigneault-Tuquet, madame Catherine Piquet, absente, donne pouvoir à madame Catherine Dupouille, monsieur Jean-Paul Gantier, absent, donne pouvoir à madame Chantal Planchenot, madame Catherine Dupouille, monsieur Gilles Chauvin, madame Chantal Couturier, monsieur Bruno Rouffia, madame Chantal Planchenot, monsieur Nicolas Tachon, madame Stéphanie Chédad, absente, donne pouvoir à monsieur Farid Eba, monsieur Guy Parella, madame Pascal Horry, monsieur Jean-Marie Badby, madame Marina Boncon, absente, donne pouvoir à monsieur Hervé Bayard, monsieur Renaud Laïtette, madame Elisabeth Soulignac-Gerbeau, monsieur Didier Simon, monsieur Michael Olnet, madame Véronique Glaise, monsieur Michel Garcia, monsieur Philippe Saès, madame Florence Thomas, absente, donne pouvoir à monsieur Philippe Saès, monsieur Jean-Louis Dariotor, madame Régine Nellig, monsieur Joël Bonnet, madame Delphine Salambier, monsieur Bernard Kruzinski, madame Marie Denis, monsieur Olivier Boisset, madame Laetitia Tachon, monsieur Éric Mesrich, madame Marilyn Rousseau et monsieur Denis Capdeviol.
Très bien, je vous remercie. Donc on a quelques absences, c'est pas uniquement lié à la neige. Il y a l'Assemblée générale du Crédit Agricole, il y a un salon de l'agriculture à Paris, il y a deux, trois choses qui font qu'on a quelques absents. En parlant de neige et avant d'entamer notre déroulé, juste vous dire qu'on est, bien entendu, vous l'avez vu, dans des conditions météorologiques un peu exceptionnelles. On n'est pas rompu comme les Pyrénéens, ce genre de situation. Je voudrais juste vous donner deux, trois infos quand même sur ce qui s'est passé ce matin et ce qu'on a mis en œuvre. On a pu voir d'ailleurs que sur Biarritz, il y a eu l'aéroport qui a fermé, qu'il y a eu des bouchons sur la 63. On avait envoyé ici donc les équipes déneiger les abords de toutes les écoles de l'agglo, ainsi que les divers sites communautaires. On a pu faire rouler le réseau ce matin pour assurer au maximum les entrées des établissements scolaires. L'état des routes était quand même très, très glissant. Et à 8h10, ça nous a obligés, pour des raisons de sécurité, à arrêter la circulation du réseau temporairement jusqu'au réchauffement des routes. Donc le CIAS a quand même pu passer pour assurer la livraison à domicile et des repas. Il y a bien entendu eu quelques... Je ne dis pas que les portages de repas étaient pile poil à l'heure. Il y a eu quelques ralentissements. Mais enfin, je voulais simplement vous dire ici qu'on avait pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser au maximum la circulation routière, en lien avec notre police municipale, avec la police nationale, avec la préfecture, avec le département. Il y a eu quelques incidents, mais mineurs. Un camion en portefeuille près du centre-ville qui nous a bloqué un certain temps. Il y a eu des ralentissements, des déviations qui ont été mises en place pour assurer la sécurité des automobilistes. Le cabinet mutualisé donc a appelé tous les maires pour faire un point de situation vers 11h. Et nous étions également présents, je remercie Bertrand Lamont notamment, auprès de la préfecture, puisqu'il y avait une petite cellule de crise à la préfecture pour tout ça. Donc les navettes de bus, c'est vrai qu'en raison des conditions climatiques, entre les écoles et le centre de loisirs n'ont pas pu être assurées. Nous ne voulions pas prendre de risques sur la route. Tous les parents ont été prévenus. et nos agents sont restés sur place jusqu'au départ du dernier enfant. Dans plusieurs écoles, tous les enfants ont été récupérés par leur entourage à la sortie de classe. Alors je parle sous contrôle de mes collègues maires, bien entendu. Je crois que du côté de chez Philippe Saès, on a fait appel aux restaurateurs et aux boulangers de Saint-Martin-d'Aunay pour improviser une cantine de fortune. Des secrétaires de mairie ont assuré l'accueil des enfants, comme à Saint-Perdon chez Jean-Yves, et puis il y a également aussi à Saint-Perdon chez Jean-Louis. À Bretagne, à Benquet, je crois que tous les enfants ont pu être récupérés. Je parle sous contrôle des personnes de Bretagne et Benquet par leur entourage. Nous n'avons pas eu à fournir les repas. Il y a quelques exemples à Gaillères, je crois qu'il y a eu accueil et repas au restaurant, avec une gratuité pour les enfants qui restent après la fin de l'accueil. Finalement, il y a des enfants qui ont été rapatriés à Puy-de-Sault, c'est ça, Guy, je crois, sur Gaillères. Bougue, l'accueil et la directrice a vu avec le bar-restaurant les possibilités de restauration. Saint-Avit, les repas et l'accueil assurés, 10 centres de loisirs, enfants, repas servis. Luc Bardès, il y a eu des repas et l'accueil assuré avec un enfant et un repas servi, je crois, sur Luc Bardès. Puy-de-Sault, même chose, ça concernait 20 enfants avec le centre de loisirs qui a joué tout son rôle. Voilà. Je voulais simplement vous dire que, bon, à situation exceptionnelle, voilà, on essaie de jouer moyens exceptionnels en fonction de nos moyens, mais aussi de la solidarité des uns et des autres. Donc je voulais vous remercier, vous, bien entendu, les maires, mais aussi les services qui se sont mobilisés. Les agents de l'aglo, le service public, bon, a été au rendez-vous par rapport à ça. Puis c'est, encore une fois, on voit que là aussi, le fait d'être ensemble, ça permet de pallier ce genre de situations qui font rire entre nous, les montagnards et les gens du Nord, dès qu'on a un peu de neige. Mais là, on avait pas mal de neige quand même ce matin. Voilà, je voulais juste faire cet aparté en vous disant que le redout arrive et que normalement, on va pouvoir rentrer dans nos pénates à la fin de ce conseil. Un ordre du jour, donc, relativement serré. Il y a peu de délibérations, pas mal de délibérations techniques. Ça nous laisse aussi le temps d'échanger, si vous le souhaitez. Et sans plus tarder, je vais vous demander de jeter un œil, si ce n'est pas déjà fait, ou du moins de vous exprimer sur le procès-verbal du Conseil communautaire de la séance du 5 décembre 2017, ainsi que sur le compte-rendu des délégations que j'ai pu prendre dans le cadre des délégations que vous m'attribuez. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir avant que l'on vote ces deux aspects-là? Est-ce qu'il y a des remarques, Elisabeth Soulignac?
Non, juste une question dans les décisions qui ont été prises, qui concernent l'attribution d'une subvention à la coopérative scolaire d'une école. J'aimerais savoir pourquoi l'aide transite par la coopérative scolaire, parce que l'objet semble plutôt correspondre à du matériel nécessaire pour l'école, ce qui relève plus de la compétence de l'aglo directement que de la coopérative scolaire. Alors, c'est la deuxième dans le tableau.
Donc ça, c'est pour les cours élémentaires de Saint-Médard.
Voilà, des tapis de gymnastique, ça semble plutôt correspondre à des besoins de fonctionnement pour l'école que pour les activités propres de la coopérative scolaire.
Je ne sais pas si, Eliane, tu veux dire un mot par rapport à ça.
Oui, mais il n'y a pas d'anomalie à ce que ça passe. Peut-être qu'il y avait une décision de rapidité. Il fallait que ce soit versé avant la subvention de la coopérative par rapport à l'achat de ces tapis. Mais voilà, on pourra préciser si. Voilà, je pourrais préciser.
On a examiné hier une série de projets et l'année dernière. Je crois bien qu'on avait pris cette décision de financer sur des fonds du fonctionnement de l'éducation ces 7 tapis parce qu'il y avait un problème. Je ne me souviens plus quelle était l'actualité. Donc c'était effectivement plus une procédure d'urgence qui a été prise pour pouvoir équiper l'école de Saint-Médard. Voilà, c'est un problème d'imputation, 2, un problème d'urgence. En gros, voilà. Mais on saura vous dire. C'est allé à Saint-Médard. Il n'y a pas de souci.
Ok, Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, sur, que ce soit sur le compte-rendu, le procès-verbal ou sur les décisions? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez souligner? Pas d'autres remarques. Donc je vous propose de le passer au vote. On le passe au vote. Donc qui est contre? C'est des décisions. Donc ok, c'est bon, on avance. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec des délibérations concernant les aménagements. Je vais laisser la parole à Bertrand Tortigue sur les deux premières qui concernent, bien entendu, le transport. Bertrand Tortigue.
Merci, Monsieur le Président. Oui, donc, première délibération qui correspond à notre septième avenant que je vous propose donc pour notre service public de transport. Comme vous le savez, donc, nous sommes en cours de négociation puisque le contrat prend fin au 31 octobre. Au 30 octobre 2018, donc nous allons signer avant cette période-là avec un nouveau prestataire, mais pour des raisons de commodité, de simplification administrative, comptable, je vous propose que le nouveau prestataire rentre en activité officielle qu'à partir du 1er janvier 2019, donc que le prestataire actuel poursuive son activité et son action jusqu'au 31 décembre 2018. Donc c'est l'objet de cet avenant, donc de prolonger de 2 mois le contrat vis-à-vis de la société Transdev. Et point de vue donc information, ce qui fait, bon là vous avez tout le tableau correctif, où Karl, tous les chiffres étaient faits jusqu'au 30 octobre 2018, là ça veut jusqu'au 31. Donc nous pouvons dire que nous aurons eu un contrat qui pour 7 ans aura coûté donc à peu près 20 millions d'euros, et ce qui correspond à 2,9% d'augmentation par rapport à ce qui avait été signé en 2011. Voilà, Monsieur le Président.
Voilà, une délibération. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération, Monsieur Holnett?
Oui, Monsieur le Président, messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers, sur cette fiche, bon, je ne sais pas si c'est un peu trop tôt, s'il va y avoir de nouvelles négociations sur le nouveau prestataire, mais j'avais interpellé Monsieur le maire de Mont-de-Marsan lors d'un conseil de quartier à Barbe d'Or, sur le fait que plusieurs quartiers, comme Barbe d'Or, La Rouquière, Micarère, La Sablière et Marie d'Or, nos enfants empruntent la même ligne. C'est la ligne A, qui est surchargée, pour desservir les collèges Jean Rostand, le lycée Victor Duruy, le lycée Charles Despiau et le lycée Robert Véric. Aujourd'hui, il y a le boulevard Nord. Il y a des bus. Les bus sont entreposés au Carbouet, passe par le boulevard Nord avec la mention sans voyageurs. Est-ce qu'il serait possible pour le prochain prestataire de revoir la ligne B, base aérienne, pour la faire prolonger par le boulevard Nord, au moins jusqu'à le parking de Carrefour, ou au mieux jusqu'à Marie d'Or? Ou alors penser à une création d'une nouvelle ligne qui prendrait la totalité du boulevard Nord, le premier et deuxième tronçon. Sachant que en créant une nouvelle ligne, ça permettrait aussi aux habitants du Perouat, de Jouannas et d'Hélène Boucher d'aller directement au magasin Carrefour. Je vous remercie.
Oui, juste, je vais laisser Bertrand Tortigue vous parler en détail, puisque c'est lui qui est au cœur de ce dossier. Simplement, on est en effet dans une procédure de renouvellement de prestataires. Donc, il y a un cahier des charges. Je voudrais juste indiquer que la contribution forfaitaire actuellement pour nous, c'est 2 800 000 euros hors taxes par an. Hein, donc, il y a un effort important. Et c'est vrai que dans la refonte, dans la remise à plat de la relation qu'on a avec le futur prestataire, et là, il y a un calendrier, parce qu'il y a la remise des offres, c'était le 4 avril. Il y a des décisions et des réunions de commission, je crois, le 4 mai. Enfin, il y a tout un process qui nous amènera à choisir le nouveau prestataire. Mais dans ce cahier des charges, en effet, on a demandé à ce qu'il y ait une étude de remise à plat un peu du réseau, de façon à ce qu'on optimise aussi la participation de l'eau, tout en préservant, bien sûr, des jonctions. Alors, à rentrer dans le détail, je vais peut-être laisser plutôt Bertrand nous en parler par rapport aux lignes. Bertrand Tortigue.
Oui, juste, enfin, avant de vous répondre, je voudrais à M. Olnet une précision. Là, il parle de bus, qu'il voit des bus au carboué sans voyageurs. Donc, vous parlez quoi comme
alors,
bus, là ?
La ligne B, qui a sa tête de ligne à la BA 118, oui. Les bus partent de l'entrepôt du carboué jusqu'à l'entrée de la base aérienne sans voyageurs. Donc, surtout sur
l'entrepôt du carboué, qu'est-ce que vous appelez l'entrepôt du carboué ?
Bah, où il y a l'entrepôt des bus du TEMA.
À la gare routière, oui. Ils partent sans voyageurs, voilà. C'est effectivement, oui, ils partent, voilà, du dépôt. Là. Les voyageurs, ils sont sur la ligne, ils ne sont pas au dépôt. Non, hein.
Je vous dis qu'aujourd'hui, nos enfants de tous les quartiers que j'ai énumérés, hein, donc Barbe d'Or, La Rouquière, Mi-Carrère, La Sablière, etc., pour un exemple, hein, le collège d'Uruy est à 1 ou 2 kilomètres de nos quartiers. Nos enfants mettent au mieux 45 minutes en bus. Vléric, c'est à 10 minutes en voiture par le boulevard Nord. Nos enfants passent par le pôle de correspondance et mettent 50 minutes. 10 minutes en voiture, 50 minutes en bus. Despio est à 10 minutes en voiture, 40 minutes en bus pour nos enfants. Donc c'était juste en modifiant la ligne B, la rallongeant un petit peu. Les arrêts de bus existent déjà. Les arrêts de bus existent déjà, hein, à Saint-Vincent, à centre commercial, à Marie-d'Or. Il suffit juste de prolonger les lignes de bus.
Bien. Vous êtes membre de la commission de transport ? C'est dommage. C'est dommage que toute votre analyse ne puisse pas profiter à tout le monde. Tout ça, c'est ce que nous discutons au niveau de la commission de transport. Je ne vous cache pas que quand nous avons fait un cahier des charges, on a fait tout un bilan là-dessus, pour présenter des améliorations. Comme l'a dit Monsieur le Président, avec un budget contraint, nous souhaiterions ne pas dépasser ces 2,8 millions hors taxes. Tout ce bilan est fait. Nous avons des études exactes, bien précises, de fréquentation. Nous avons le nombre de voyageurs qu'il y a par arrêt, tout ça. Donc tout ceci fera partie des négociations pour voir si, dans une enveloppe de 2,8 millions, 2,3 millions, nous pouvons apporter une certaine amélioration. Notre système actuel est tout à fait critiquable, comme tout système. Je rappellerai qu'il est, la somme d'un intérêt, de plusieurs intérêts particuliers ne fait pas un intérêt général. Je pense que, actuellement, nous avons démarré notre système bus à 300 000 voyageurs. Je pense que d'ici la fin du contrat, nous serons pas très très loin du million. Donc notre réseau est critiquable, il faut l'améliorer, mais je pense qu'il a montré qu'il était d'une certaine efficacité.
Après, pour les détails de cadencement, hein, parce que là vous rentrez vraiment dans des détails qui souvent sont à travailler plutôt en commission, je vous invite à, si vous voulez bien, les notifier de façon précise, l'envoyer à la commission, on va regarder si ces aspects-là ont été pris en charge. Parce que là, si on commence à regarder toutes les lignes avec des points de détail qui sont certainement très importants quartier par quartier, je pense que c'est plutôt un travail de commission, donc moi je vous invite à aller tout simplement à les rédiger, les envoyer, puis on regardera avec... on a un cabinet qui s'occupe de ça, on a une personne ressource en interne qui quand même, dont c'est le métier, sont des professionnels. Je pense que ces aspects-là, ils sont plus capables que nous encore de pouvoir les fouiller. Donc n'hésitez pas à retranscrire ce que vous venez de dire par écrit, on le transmettra au cabinet. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération ou d'autres points que vous vouliez soulever ? Donc, je vous propose de la passer au vote. On est sur la délibération numéro 1. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je vais laisser à nouveau la parole à Bertrand Tourtigue. Là, on vous parle d'une adhésion à un syndicat mixte régional. Bertrand Tourtigue.
Merci, Monsieur le Président. Bon, je vais essayer de vous faire un petit résumé de tous les statuts et de la philosophie donc de la création de ce syndicat mixte. Bon, cette création de ce syndicat sous l'égide de la Nouvelle-Aquitaine, donc qui résulte du fait que Notre nouvelle Aquitaine va d'Andaille jusqu'à Poitiers, La Rochelle, en passant par Guéret et compagnie, donc d'une étendue très très importante. Et il est difficile de coordonner cette action transport sur un territoire aussi important sans cette création de cette structure. Donc ce syndicat mixte aura pour objectif le développement, la facilitation et la promotion des transports en commun et l'intermodalité sur son périmètre. Pour ce faire, il assure la coopération de ses membres en vue de coordonner les services de transport qu'il organise, de mettre en place un système d'information multimodale, une tarification coordonnée ainsi que des titres transport uniques ou unifiés. L'instauration d'une chaîne de déplacement fluide sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine nécessite une coopération active et étroite entre l'ensemble des autorités organisatrices de la mobilité. Il y a 28 autorités organisatrices dans l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine donc concernées. Bon, ceci va donc impliquer de pouvoir passer facilement et rapidement d'un mode de transport à un autre. C'est l'organisation des correspondances, les cheminements optimisés. De disposer d'informations pour préparer le déplacement, c'est des horaires théoriques, des tarifs, ainsi que pendant le déplacement, avoir les horaires réels. De disposer d'un titre de transport unique permettant d'emprunter les différents réseaux et de disposer de services associés. Ce syndicat aura dans un premier temps des compétences obligatoires. Ça sera la coordination des services de transport organisés par les AMO, qui en sont membres dans un but d'intermodalité, la mise en place d'un système d'information multimodale des usagers et la recherche et la mise en place d'une tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou unifiés. Bien sûr, elle pourra acquérir des compétences facultatives par délégation de ces AMO. Ça pourra être la création, la gestion de services réguliers et de services à la demande, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport. Voilà un peu les grandes lignes de ce syndicat. En termes de gouvernance, donc il y a, comme je vous ai dit, il y a 28 AMO. Il y aura, en fonction de l'importance de la population, il y aura un nombre de délégués, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà de 2 millions, il y aura 4 délégués. Ça concerne Bordeaux, 1 million d'habitants. Entre moins de 400 000, il y aura 3 délégués. Entre moins de 300 000, il y aura 2 délégués, ainsi que moins de 200. Et à moins de 150 000, il y aura 1 délégué, ce qui représente en tout 36 membres, plus les 12 membres de la région, ce qui représentera donc un comité syndical de 48 membres. Ensuite, chaque membre ayant un nombre de voix lors des votes. En termes de gouvernance, donc, il va y avoir, du fait de l'importance de cette région, la création de bassins, de comités de bassins. Il y en a 5 qui va être créé, et nous allons être dans un comité avec toute la région paloise et toute la région donc du Pays Basque. Donc ça sera, si on prend en termes de département, ça sera un comité constitué des Landes, hormis le Nord, puisque toute la zone de Sanguinet, Parentis, Biscarrosse va être reliée avec Bordeaux, et nous serons avec les Pyrénées Atlantiques, donc Pays Basque et Béarn. Chaque comité aura donc son président et il y aura un nombre de délégués en fonction de la population et de l'importance. En termes de financement, de budget, donc bien sûr chaque collectivité va adhérer, il y aura une cotisation et pour nous la cotisation va s'élever à 20 000 euros par an là-dessus pour adhérer à ce syndicat. C'est un premier budget prévisionnel fait qui s'élèvera à peu près à 1,7 million. Donc ces recettes seront donc les cotisations des membres, sachant que la région de mémoire doit mettre à peu près 1 million pour les frais de fonctionnement. La plus grosse partie, c'est la métropole Bordeaux qui va mettre plus de 100 et quelques 1000 euros. Et donc nous allons mettre 20 000 euros. Autre source de financement qui sera facultative, ça sera la possibilité d'action, ce qu'on appelle de la taxe, le VTA, donc le versement transport additionnel, qui pourra être versé au comité de bassin s'il y a des actions bien précises au sein de ce comité de bassin. Mais cette nouvelle taxe ne sera payée qu'aux collectivités, qu'aux personnes assujetties, enfin aux personnes, aux entreprises, puisque bon, c'est une taxe que l'on doit payer quand on a au moins 11 salariés. Ça correspond à 0,6% de la masse salariale. Tout le monde est assujetti. Un privé qui a 11 salariés, les collectivités, notre agglomération paye, tout le monde est assujetti. Mais cette nouvelle taxe ne pourra s'appliquer qu'aux ceux qui ne la payent pas au sein de la zone urbaine définie par l'INSEE. Ce qui fait que nous, si nous prenons notre exemple, collectivité de notre agglo, nous n'aurons pas à la payer puisque nous payons déjà une taxe transport. Donc s'il y a la création de cette taxe additionnelle, directement, elle ne nous concernera pas. Je vous donne par exemple un petit exemple. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, bon, s'il commence à y avoir des réflexions, puisque nous sommes en co-négociation, une collectivité comme Grenade-sur-Adour serait éventuellement intéressée pour qu'il y ait une possibilité de transport, de liaison. Bon, ils ont déjà, par la région, une possibilité de... Il y a des bus qui passent, mais améliorer ça, parce qu'effectivement, beaucoup d'Aturins va sur Mont-de-Marsan, et ça sera le but à ce moment-là de ce comité de bassin qui pourra peut-être mettre en place, aura la possibilité de mettre en place ce réseau de transport et pourra le financer par cette taxe additionnelle qui sera payée par les zones, les collectivités et les entreprises concernées dans cette zone-là qui ne la payent déjà pas. C'est-à-dire, en gros, si la zone de Grenade veut mettre ça... veut mettre ce système-là en place, eh bien, ça sera payé par cette taxe additionnelle, par la collectivité de Grenade, par l'agglomération de Grenade, par les entreprises qu'il y a sur Grenade et compagnie. Donc voilà ce mode de financement et des financements aussi européens par des fonds fédères. Donc voilà les grandes lignes donc de ce syndicat. Donc cette délibération consiste donc à vous demander l'accord de notre assemblée pour adhérer. Et ensuite, si vous en êtes d'accord pour adhérer, il faudra nommer, donc désigner un titulaire. Désigner donc un représentant et son suppléant donc à ce comité syndical.
D'accord. Voilà, est-ce que sur cette explication complète, il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne? Non? Bon, vous l'avez compris, c'est l'adhésion à un syndicat. Au début, quand on nous a présenté ça... Pardon, il y a une question là-bas.
Voilà. Oui, je l'ai lu plusieurs fois. Trois fois, je crois. Et je me demande vraiment si ce syndicat sert à quelque chose.
Alors,
j'ai pas tout compris. En matière de transport, si c'était quelque chose qui allait amener quelque chose de plus, ou si on allait se servir de l'existant, quelles étaient les 28 autorités organisatrices? Est-ce que ce sont les préfectures? Je ne sais pas s'il y a 28 départements dans la nouvelle Aquitaine. Dans les statuts. Oui, merci.
Alors, cette question-là, on se l'est posée aussi, parce qu'on s'est dit, un syndicat mixte de plus, pourquoi faire? Forcément, c'est la première question qu'on s'est posée en commission en transport à 20 000 euros. Ce syndicat mixte, c'est quoi en fait? C'est coordonné au niveau de la nouvelle région, le transport, c'est-à-dire coordonner les services, l'information, le système d'information, les systèmes informatiques et la tarification, pour faire simple. C'est-à-dire qu'on est quand même dans de l'intermodalité avec des correspondances où il faut que les usagers demain aient une vision globale en prenant le train là jusque-là, puis après le car et après, etc., qu'il y ait cette coordination. Donc c'est plutôt rentrer dans un système de coordination. On peut très bien dire « on n'y va pas ». On s'est posé la question. On serait les seuls. Hein. J'ai vu M. Rousset hier, je le revois demain, on en a parlé. Voilà, on est vraiment, on serait vraiment un petit peu les seuls et on se mettrait un petit peu à l'écart d'un système qui, demain, doit permettre d'avoir une vision multimodale de l'ensemble de la carte transport en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est vrai que ça va aussi dans le sens de l'histoire, parce que les transports, enfin, à ce niveau-là, c'est la région. Donc ne pas aller dans ce dispositif-là nous paraissait dommage. Mais c'est essentiellement ça, c'est-à-dire de pouvoir permettre aux usagers d'avoir plus de transparence, plus de lisibilité, plus de rapidité dans les horaires, connaître les horaires, les connexions, la localisation, les temps de trajet, et que ce soit à l'échelle... voilà. Il y a les aspects dont a parlé Bertrand, mais c'est surtout ça, moi, que j'ai retenu de cette fonction-là. Donc c'est vrai que... Alors après, il y a un budget, nous, on met 20 000. Les 28, tu as toutes les tailles. Hein. Tu as des petites comme des gros agglos, tu as la métropole. Voilà, il va y avoir plusieurs acteurs. Il n'y a pas les préfectures, bien sûr. Hein. Voilà. Et c'est quelque chose qui a été... au départ, on l'a regardé avec cet œil aussi en se disant pourquoi cotiser là-dedans. Bon, essentiellement, c'est de... On ne peut pas raisonner que solo sur nos transports, sur notre périmètre, sans rentrer dans un système où il y a une connexion globale et une information globale et des systèmes d'information globaux et de la communication transparente pour les usagers au niveau tarif et autres. Voilà.
Un petit rajout. Donc, ce n'est pas les préfectures. Hein, toutes les villes qui ont un système de transport. Transport allant train, hein, bus, c'est toutes les villes qui ont un système de transport. Et pourquoi y adhérer ? Il faut être bon. J'ai participé avec les services durant toute l'année 2007. Il y a eu pas mal de réunions, de concertations avec ces 28 collectivités qui organisent du transport pour à élaborer tout ça. Et c'est très clair, il faut être très clair et net. C'est un souhait de la région, de la Nouvelle-Aquitaine. C'est leur politique en termes de transport. Et tout financement passera par ce syndicat. Donc ce qui veut dire que toute collectivité qui ne sera pas membre de ce syndicat-là aura d'énormes difficultés pour obtenir de l'aide de la part de la Nouvelle-Aquitaine dans le domaine du transport. Tout le financement de transport passera par ce syndicat-là. Les aides que donnera la région passeront par ce syndicat et via les collectivités. Donc ne pas y être, c'est des sources de risque de perte de financement.
Vous l'avez compris, il y a un côté incitatif, c'est améliorer les connexions, l'information. Et il y a un côté un peu coercitif, c'est qu'on serait les seuls à ne pas y être, ce qui pourrait quand même nous positionner un peu délicatement. Mais on a aussi regardé le côté positif des choses. Et je pense qu'il y a notamment en termes de coordination au niveau de la nouvelle région, il y a forcément... on ne peut pas raisonner que solo, notamment sur l'information, sur les horaires, les systèmes d'information à mettre en commun, etc. Voilà. Mais on s'est posé la question. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération ? Non, je vous propose de la soumettre au vote. Qui est contre ? C'est la numéro 2. Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité sur la délibération de numéro... Alors, il faut nommer des délégués. Est-ce qu'on a prévu ? Moi, je propose que ce soit les personnes qui sont sur les... Voilà, les personnes qui sont sur la délégation de transport, à moins qu'il y ait des actes de candidature. Donc, je voudrais proposer les deux personnes qui sont sur ce sujet-là. Je me tourne vers Bertrand Tortigue et Guy Sibu. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vote à main levée, à moins qu'il y ait d'autres candidats, pour nous représenter au sein de ces instances ? Vous êtes tous d'accord ? Donc, on procède à un vote qui est contre... qui s'abstient. Je vous remercie. Donc c'est Bertrand Tortigue et en suppléant, c'est ça, Guy Sibu. Voilà. Merci à vous. Sur la délibération numéro 3, je vais parler. Donc là, il s'agit du lancement des procédures de modification du PLU et je vais laisser, il y a des notions de zone de bruit, de PEB, je vais laisser la parole à Cathy Demême.
Oui, merci Monsieur le Président. Le nouveau plan d'exposition en bruit de la base aérienne de Mont-de-Marsan a été approuvé par la préfecture le 2 novembre 2017. Les communes concernées par ce nouveau PEB sont Mont-de-Marsan, Bougues, Campette, Mazerolles, Saint-Avit et Uchac. Les documents d'urbanisme opposables doivent être compatibles avec cette nouvelle zone, conformément à l'article L131-4 du Code de l'urbanisme. Pour les communes de Bougues, Campède, Mazerolles et Huchac, cette compatibilité pourra se faire par une mise à jour du document d'urbanisme. Le nouveau PEB sera transposé en annexe dans les documents d'urbanisme. Le PEB dans ces documents a été annexé et non retranscrit dans les documents graphiques. A contrario, pour les communes de Mont-de-Marsan et de Saint-Avit, il doit être mis en place une modification des PLU, les documents graphiques faisant apparaître l'ancien PEB devenu à présent obsolète. Pour ces documents d'urbanisme, le PEB n'était pas un annexe, mais reproduit dans les documents graphiques. Les modifications se résumeront à la modification des plans réglementaires. La mention des zones de bruit devront figurer dans les règlements et la présentation du PEB annexé. Les adaptations envisagées entrant dans le cadre de l'article L153-36, la procédure de modification peut être lancée. Cette procédure se déclinera ainsi. Association des personnes publiques et des maires des communes concernées. Une enquête publique d'une durée d'un mois. La remise du dossier complet représentant le projet de modification ainsi que le registre des observations qui sera à disposition du public au pôle technique à Mont-de-Marsan et à la mairie de Saint-Avit. Le projet du dossier définitif sera arrêté par le conseil communautaire et tenu à la disposition du public. Il vous est donc demandé dans cette délibération de prendre acte du lancement de cette procédure de modification des PLU de Mont-de-Marsan et de Saint-Avit et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces ou documents relatifs à cette délibération.
Merci Cathy Debême. Donc cette délibération concerne le PEB, vaste sujet sur lequel on a trois zones en fait, hein, vous l'avez compris, on voit le plan là, on a la zone A où c'est là où le bruit est le plus fort, donc là on peut tout simplement plus construire. C'est lié à la proximité de l'activité aéronautique. La zone B que vous voyez sur le plan, le bruit est un peu moins fort. Je vous passe les notions de mesure. On peut faire du renouvellement, mais il ne faut pas augmenter le nombre d'habitats. Et puis la zone C, là, il n'y a pas de restriction. Il vous est donc proposé dans cette délibération de valider tout ça dans le cadre du PLU. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je vous propose de le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. Sur la délibération suivante, je vais passer la parole à Cathy Dupouille et nous allons vous parler de l'avenant au protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de Mont-de-Marsan agglomération. Il s'agit là aussi de nous autoriser à demander de réaliser parfois certaines opérations par anticipation. Cathy Dupouille.
Merci, Monsieur le Président. Donc, le 26 juillet 2016, ce protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain a été signé. Mais l'Agence nationale de rénovation urbaine a elle-même modifié des règles concernant des autorisations anticipées concernant à la fois le démarrage des travaux et la durée des différents protocoles. Il s'agit donc d'adapter le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain, d'assurer sa conformité au regard des nouvelles règles fixées donc par l'ANRU. L'article 5 en particulier qui va concerner, lui, le démarrage anticipé des deux opérations de démolition des 88 logements sur le site du Perouate et le relogement actuellement en cours est réalisé au titre de la reconstitution de l'offre sociale sur l'agglomération montoise et la durée administrative du protocole qui s'achèvera au 31 décembre de la quatrième année au cours de laquelle s'effectue le solde de la dernière opération physique financée par l'agence. Alors, considérant la nécessité de modifier le dit protocole au regard des nouvelles règles fixées, il s'agit d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à intervenir à la signature de toute pièce et formalité se rapportant à l'exécution de la présente délibération.
Merci Cathy Dupouille. Donc, vous l'avez compris, c'est une adaptation du protocole du 26 juillet. On a des opérations qui doivent démarrer avant qu'on contractualise. Tout ça est détaillé d'ailleurs dans la convention que vous avez derrière. Et tout ça s'inscrit aussi dans le travail qui est fait en ce moment au niveau de l'ANRU, entre le comité de pilotage, il y en a un qui est le 1er mars prochainement, où on y traitera de nombreux sujets, notamment l'installation d'un organisme intermédiaire en lien avec le conseil régional. Et puis ensuite, on a un comité technique le 28 mars. Donc on a des rendez-vous qui sont bien jalonnés. Pour pouvoir avancer sur ce renouvellement. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération concernant l'ANRU? Pas de questions particulières. Je vous propose de la passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. Sur la délibération numéro 5, qui va vous être présentée par Jean-Marie Esquier, qui vient là. ne le voyez pas tout à l'heure. On va vous parler du coût forfait école maternelle, donc la participation notamment des villes qui sont en dehors de l'agglo et qui scolarisent leurs enfants sur notre territoire. Jean-Marie Esquier.
Oui, en fait, nous avions déjà débattu sur cette question en ce qui concerne l'école élémentaire. Donc c'est le pendant pour l'école maternelle. Hein. Donc ce sont les mêmes assiettes qui ont été déterminées, c'est-à-dire c'est sur le compte administratif 2016 et sur les effectifs de septembre 2016 qu'a été calculé ce prix de revient. Il est donc de 1 521 €, et c'est ce qui sera demandé à tout enfant résidant hors communauté d'agglomération qui est scolarisé sur notre territoire.
Merci Jean-Marie Esquier. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions avant de passer au vote sur cette délibération ? Pas de remarques particulières. Donc je la soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. Avant de passer donc sur la prochaine délibération, je vais passer la parole à Eliane D'Arteron pour qu'elle nous parle. On en parlait tout à l'heure du versement. Alors là, il s'agit de l'ensemble, hein, du versement de la subvention aux coopératives scolaires. On y voit d'ailleurs que ça permet de financer les activités sportives, culturelles, sorties scolaires, voyages et autres. Eliane D'Arteron.
Merci. Donc, effectivement, il s'agit de du versement de la subvention aux coopératives scolaires pour les communes de l'agglomération, sauf pour les communes qui sont en syndicat scolaire et qui ont gardé cette compétence-là. Le budget est déterminé lors du vote du budget annuel et en tenant compte des effectifs au 1er janvier de l'année en cours. Pour l'année civile 2018, le montant de la subvention sont reconduits à l'identique par rapport à 2017, c'est-à-dire 6,16 € par enfant de maternelle et d'élémentaire pour les écoles de l'agglomération, sauf pour les écoles en REP. Pour les écoles en REP, le montant est de 12,32 €, et je précise qu'il s'agit des écoles de l'Argenté, du Péglé, et qu'il faut corriger sur la délibération où il est indiqué le Carboué, et il s'agit bien du Peyroite. Je ne voudrais pas avoir des banderoles demain matin devant l'école, parce qu'on baisse les subventions de la coopérative, s'il vous plaît. Je précise que cette subvention est versée en une seule fois, que le gestionnaire de la coopérative, le mandataire, gère mes produits, des comptes et un bilan chiffré qui est produit lors du premier conseil d'école de l'année N+1, tout simplement. Sur le tableau qui est joint en annexe, les montants sont corrects et bien affectés aux bonnes écoles. Et vous voyez que ça représente l'équivalent d'un budget de 31 000 €.
Je récupère la parole. Merci Eliane D'Arteron. Donc on va passer cette délibération en notant bien qu'il ne s'agit pas du Carboué mais du Peyroite. C'est une coquille. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions par rapport à cette délibération ? Pas de remarques, pas de questions. Donc je vous propose de la soumettre au vote en notant, et on modifiera bien entendu la petite modification entre le Carboué et le Peyroite, et on intervertira. Donc sur cette délibération numéro 6, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. Je vais, sur la délibération, passer la parole ensuite à Delphine Salambier. Et nous allons parler de l'attribution liée à l'AMAC. L'AMAC, c'est le Café Musique. Donc, c'est la subvention liée au Café Musique. Delphine Salambier.
Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril et du décret du 6 juin, dès lors que le montant d'une subvention versée à une association dépasse 23 000 €, une convention d'objectif doit être conclue entre les parties. Alors, ça concerne effectivement l'Association montoise d'animation culturelle, la MAC, qui est pour un montant de 33 700 € de subvention de fonctionnement, qui comprend aussi l'organisation de la 9e édition du festival La Route des Imaginaires, et de 93 000 € de subvention au titre de la mise à disposition de personnel. Alors, afin de garantir le respect des prescriptions de la loi du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, laquelle prévoit que les mises à disposition de personnel donnent lieu à un remboursement, le montant correspondant sera versé par l'agglomération, puis remboursé par l'association dans les conditions fixées par la convention que vous avez. Ce montant sera par ailleurs valorisé et annexé au compte administratif de l'année.
sur cette délibération. Je prends peut-être à froid Nicolas Tachon qui est par là. Si vous voulez, si Nicolas, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. On a trois personnes qui sont mises à disposition sur le Café Musique. Est-ce que sur cette délibération, il y a des questions, des remarques sur ce point-là? Pas de remarques particulières. On a un sujet sur ce Café Musique, un vrai sujet d'actualité, qui n'est pas sans nous inquiéter. Enfin, du moins, il y a une réforme ou un projet de nature à centraliser le label SMAC sur une seule et même tête dans le département. On a deux scènes de musique actuelle, une à Saint-Jour-de-Marennes, Nicolas, et une qui est en réseau, c'est-à-dire sans site, et une ici. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion, et j'ai souhaité rencontrer le DRAC sur divers sujets récemment, et on a abordé ce sujet-là avec la personne référente musique actuelle au niveau de la DRAC. On a un peu l'impression que la tendance serait d'avoir un seul label et ne plus pouvoir maintenir ce label SMAC en réseau. Ce qui nous pose problème, c'est un sujet sur lequel on est attentif et on est derrière le Café Musique là-dessus, sans non plus dénigrer ce qui se fait côté Max. Mais voilà, il faut qu'on soit attentif parce que c'est après vecteur de subvention et d'identité sur un outil qui est particulièrement bien et que nous avons soutenu jusqu'à présent. Ils ont fait un boulot énorme pour voir ce label. Il ne s'agit pas de... Voilà, on est vigilant par rapport à ça. Il y a un peu une zone de flou là-dessus. Ceci n'ayant absolument rien à voir avec la subvention qu'on délibère là. Mais je voulais vous en parler. Sur ce projet de délibération numéro 7, est-ce qu'il y a des voix contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Je vais passer ensuite la parole à Hervé Bayard pour qu'on, sur une délibération liée à une amende de police. Hervé Bayard.
Merci, Monsieur le Président. C'est une délibération toute simple qui consiste à prendre en charge une contravention qui a été dressée à l'endroit d'un de nos agents qui était stationné à un endroit où une autorisation lui avait été délivrée. Et donc cette contravention a été malencontreusement dressée. Il s'agit d'un montant de 82,50 €. Voilà.
Franchement, désolé d'être obligé de délibérer pour cet aspect-là, mais ça fait partie du choc de simplification. J'imagine qu'il n'y a pas trop de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Merci Hervé. Je vais maintenant passer la parole à Bernard Kruzinski, car nous avons une délibération qui concerne une modification. Vous savez, avec cette compétence GEMAPI, il y a quelques modifications statutaires sur le syndicat mixte du bassin versant de la Midouze, pour lequel Bernard est notre représentant et notre interlocuteur. Bernard Kruzinski.
Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, Mont-de-Marsan agglomération adhère au syndicat mixte du bassin versant de la Midouze pour le compte de certaines communes, donc Campagne, Campette-la-Molaire, Geloux, Mont-de-Marsan, Saint-Martin-Donné, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont et Uchac et Parentis, donc au titre anciennement de la compétence en matière de gestion des cours d'eau. Donc le SMBVM, par délibération du Conseil syndical en date du 18 décembre 2017, sollicite la mise en conformité de ses statuts afin de rendre les compétences qu'il exerce compatibles avec un transfert potentiel par les EPCI qui en sont membres de la nouvelle compétence GEMAPI. Donc là maintenant on parle de gestion de milieux aquatiques et plus de matière en gestion de cours d'eau. Les missions concernées sont fixées aux items suivants de l'article L211-7 du Code de l'environnement. Donc l'item numéro 1, c'est l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique. L'item numéro 2, l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou plan d'eau. Et l'item numéro 8, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines. Dans ces articles, il manque l'item numéro 5 qui parle spécifiquement de la protection des inondations. Donc l'item pays de la GEMAPI. Actuellement, les syndicats sont en train de négocier avec l'institution Adour une convention pour que cette prévention des inondations soit gérée par l'institution Adour et non pas par les syndicats de rivière qui sont au nombre de 15 dans les Landes. Donc cette modification des statuts est soumise à l'accord des membres du syndicat dans les conditions de majorité requises pour l'établissement, la création de l'établissement. Et il est donc proposé au Conseil communautaire d'adopter les syndicats que vous avez, les statuts qui sont joints en annexe, que vous avez pu voir en annexe.
Merci Bernard Kruzinski. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération et sur cette modification de statut? Est-ce qu'il y a des remarques ou des points que vous voulez aborder? Pas de remarques particulières. Donc je vous propose d'un petit vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On a deux délibérations que je vais confier à Philippe Saès. Une, la 10, qui concerne la mise à jour, délibération assez classique sur le tableau des emplois. Et l'autre, qui concernera la 11, le plan communal de sauvegarde. Philippe Saès.
Merci, Monsieur le Président. Donc, l'inévitable mise à jour de tableau des emplois. Donc, ce tableau, cette fois-ci, l'évolution principale consiste à la prise en compte d'une évolution en termes d'organisation de la partie du service éducation. Donc, il y a une transformation de 10 postes, que ce soit d'animateur, d'adjoint technique ou d'ADSEM. Principalement des augmentations de temps de travail sur des temps non complets. Nous avons également une suppression de poste d'un stagiaire à la médiathèque qui n'a pas été renouvelé, et enfin une création d'un poste toujours dans le service éducation de secrétariat et comptabilité.
Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? On est sur la numéro 10. Pas de questions particulières. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. Délibération numéro 11, Philippe Saès.
Délibération numéro 11, donc ça concerne la prise en compte de tous les défibrillateurs de l'agglomération. Donc, au travers d'une convention, le projet vise à régler tous les problèmes rencontrés par les collectivités locales. On a des défibrillateurs qui sont particulièrement vieillissants, qui arrivent en fin de vie. Donc, 4 grands axes sont proposés dans cette convention. Une mission d'information, une mission de formation, une mission d'assistance de maintenance des équipements et une mission de mise à disposition. 3 types de PAC sont proposés, un PAC extérieur, un PAC intérieur, un PAC portatif. Et donc, pour la prise en compte de l'ensemble du parc de défibrillateurs, ça coûterait à la collectivité 2100 euros TTC par an.
Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette délibération qui est la dernière, a priori? Pas de remarques particulières. Donc je vous propose de la soumettre au vote. Avant de partir, bien entendu, vous avez peut-être des prises de parole. N'hésitez pas. On a un peu de temps, même si je crois qu'il y a un match de foot. Mais on m'a glissé. Monsieur Bayard m'a dit qu'il y avait un match de foot, mais qui n'est pas... D'accord. Merci de le mentionner hors PV. Avant cela, on va voter la 11. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Moi, j'ai 2-3 choses à vous dire. Et notamment, vous avez reçu, alors je pense que vous avez reçu le vœu. Nous avons, mais je voudrais vous parler, ouvrir une parenthèse par rapport à un sujet transport. Alors, on a le transport du quotidien, voilà, qu'on connaît, qui est un sujet. Et puis, il y a le transport du siècle, à l'échelle d'un siècle. Je vous avais trouvé sur table, où on vous a adressé par mail, je crois, un vœu de conseil communautaire que je souhaiterais tout simplement vous soumettre au vote pour qu'on ait une expression commune, comme on a pu l'avoir en conseil municipal, et qui est dans la droite lignée de ce que nous avons... œuvrer conjointement avec d'autres élus landais de façon transpartisane et en évitant de politiser les débats, bien entendu, puisqu'on est tous unis et tous cohérents dans une démarche qui vise à mettre la pression pour que cette LGV puisse ne pas être rayée et rester dans les projets et pas les projets repoussés au calendrier grec. Je ne vous cacherai pas, donc hier nous étions à Paris, puisque à l'initiative à la fois de Geneviève Darrieussecq, mais aussi à l'invitation de Elisabeth Borne, nous avons pu être reçus au ministère des Transports. Nous étions un déjeuner de travail où nous avons pu nous exprimer, donc avec le président de la région, les deux présidents, celui de la région Alain Rousset et Xavier Fortinon, président du conseil départemental, les trois députés, Lionel Cosse, Fabien Lenné, Boris Vallot, les deux sénateurs, Monique Lubin et Éric Hérouche, et puis les maires de Dax, Elisabeth Bonjean, ma collègue de Dax, et moi-même. Donc c'est un rendez-vous qui a été facilité, bien entendu, aussi par l'appui de l'intervention de Geneviève Darussec, qui d'ailleurs, en introduction, n'a pas manqué de stipuler sans aucune ambiguïté son attachement à ce projet de LGV. Je vous fais part, moi, de mon sentiment. Après, ça peut toujours être subjectif, mais j'ai trouvé que la ministre nous avait écoutés pendant une heure et demie, dans un emploi du temps un peu contraint, puisque le matin, elle était sur BFM TV à 14h avec le président, parce qu'elle a des sujets cheminots aussi en ce moment. On n'a pas parlé des cheminots, on a parlé de LGV. Chacun a pu s'exprimer dans une convergence transpartisane parfaite, quasi parfaite, avec des façons de s'exprimer différentes, mais en tout cas, on était tous sur la même longueur d'onde en ce qui concerne notre souhait de voir ce train passer à grande vitesse sur notre territoire. Il a été rappelé que c'était un projet européen. Le président Rousset l'a rappelé, en remettant en perspective le fait que les Espagnols étaient prêts et bien en avance, et que c'était un projet aussi, parce qu'il peut être parfois chahuté par quelques défenseurs de l'environnement, que nous sommes aussi. Nous avons tous rappelé que ce projet était quand même vertueux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur le trafic de camions que l'on peut avoir sur le mur de l'Atlantique, je ne sais pas si on va appeler comme ça, le mur de camions de la 63. Pour ma part, moi j'ai insisté sur trois points, pour ne pas répéter ce qui s'était dit. Le fait, et là j'ai insisté avec Elisabeth Bonjean, je pense qu'on est dans la même problématique, sur le fait que les administrés du Marsan Agglomération, en ce qui nous concerne encore plus que Dax, attendent ce désenclavement depuis toujours. J'ai bien rappelé que nous étions ici à Mont-de-Marsan les oubliés, non pas depuis ce gouvernement, mais depuis des siècles en matière de transport ferroviaire, et que renoncer à ce projet serait un coup d'arrêt très préjudiciable pour le développement économique, touristique et emploi. Vous avez entendu le discours, je ne le répète pas. Moi, j'ai également insisté sur le fait que nous étions très conscients de la problématique de financement, puisque la ministre nous a attiré notre attention sur le fait que si la déclaration d'utilité publique existe, et c'est très bien, le problème de financement, lui, n'avait jamais été réglé. Avant et aujourd'hui, on est toujours dans cette configuration-là. Même si on entend ce problème de financement, il semble quand même que des solutions un peu innovantes, en se mettant autour de la table, comme ça peut l'être notamment en Occitanie, puissent être trouvées pour essayer d'avancer. À l'instar de ce qu'a pu dire le président Rousset, relayé par Geneviève Darussec, il y a certainement des solutions de financement un peu innovantes qui doivent être trouvées, en tout cas pour un investissement qui n'est pas un gymnase ou une petite route, mais un investissement à l'échelle de dizaines d'années, voire d'un siècle. Pour ma part, j'ai rappelé également, mais ce que j'ai dit lors des vœux, que pour nous, c'est un tournant, un peu comme l'a été l'implantation de la préfecture il y a très longtemps, ou de la baie en Saint-Denis après la guerre. C'est peut-être le troisième tournant de l'histoire de notre territoire, donc il faut être fermement motivé sur la question. Et puis enfin, et là c'est plus une problématique qui me lie aussi à Dax, on est un peu sur la même longueur d'onde là-dessus. J'ai rappelé à la ministre et à son directeur de cabinet qu'il était difficile de défendre et de cautionner le versement de 7 millions d'euros pour financer une tour Bordeaux sans le prolongement, et que je ne souhaitais pas porter la responsabilité de flouer et de tromper les contribuables du territoire. Ce en quoi nous avons des points de convergence avec ma collègue de Dax. Toutes les collectivités n'avaient pas participé, ça a pu un peu déstabiliser le financement. Aujourd'hui, en tout cas, ce point-là devait être souligné, et nous l'avons souligné fermement auprès de la ministre. Moi, ce que je retiens ici, c'est que On a également parlé de la LGV à moyen long terme, mais ce projet à moyen long terme ne doit pas nous faire oublier tout de suite les transports du quotidien, et ce qui peut nous permettre à court moyen terme de désenclaver rapidement notre territoire des transports ferroviaires avec cette ligne Mont-de-Marsan-Bordeaux et aller vers un cadencement ou une modernisation qui permettrait d'aller à Bordeaux en moins d'une heure. Et puis, de l'autre côté également, même si ce n'est pas forcément dans le bureau du ministre que ça peut se traiter, mais qu'on puisse, avec les partenaires du conseil départemental, trouver enfin une solution pour aboutir sur notre barreau du Calois entre la sortie d'autoroute et la caserne des pompiers, de façon à ce qu'on prolonge un petit peu la 65 jusqu'aux portes de la préfecture pour justement compresser cette distance qui rebute un peu tout le monde et qui est très accidentogène. Voilà les choses que l'on a pu souligner, en soulignant également que même Bordeaux, et c'est le cas, Alain Rousset l'a dit et Alain Juppé l'avait dit par ailleurs, Bordeaux a tout intérêt à ce que cette LGV arrive et arrive vite, car on atteint une saturation et des problématiques d'explosion du foncier, de saturation de la rocade, des problématiques autres. Avoir une LGV, c'est certes un transport européen qui permettra à des gens de Paris et même de Bruxelles d'aller jusqu'à Madrid rapidement, mais aussi à des transports professionnels classiques de demi-heure. Je suis monté à Paris, je suis parti à 5h30 pour monter à Paris, et j'ai revu, c'était un omnibus, j'ai vu à Angoulême des gens qui sont montés dans le TGV pour aller travailler à Poitiers, des gens de Bordeaux qui travaillent à Angoulême. Voilà, il y a aussi ces jonctions en demi-heure. Il faut transformer cette heure et demie qui nous lie à Bordeaux en une demi-heure de trajet. Donc on a insisté sur cet aspect-là, et Bordeaux ne peut pas s'opposer à ça, au contraire, pousse là-dessus. Voilà, donc ce que j'ai noté ici, on n'a pas eu de date, bien entendu, mais j'ai bien noté, moi j'ai pas entendu que la ligne LGV était abandonnée, donc j'en déduis qu'elle n'est pas abandonnée. Après on a poussé, et le combat n'est pas terminé, on a poussé de façon unie pour que les dates annoncées 2037, on a tout vu au niveau des dates, soit bien entendu avancées. Voilà. Voilà ce que je souhaitais vous dire, en tout cas, sur le ressenti que j'ai eu par rapport à ça. Et la transition est toute trouvée. J'aurais souhaité vous proposer, comme j'ai pu le faire en conseil municipal, avec quelques ajustements qui pourraient correspondre sur la forme à des remarques que j'ai eues en conseil municipal, de façon à ce qu'on converge tous. Et je vous propose, à moins de vous lire le vœu sur lequel je souhaiterais engager votre vote de principe, certes, mais c'est dans la continuité de ce qui s'est fait au niveau de l'Association des maires des Landes, une motion. Je ne sais pas si au CD40 ils l'ont fait, mais je crois que oui. Nous l'avons fait en conseil municipal. Elisabeth Bonjean le fait sur Dax aussi. C'est aussi une façon de montrer, au-delà de nos étiquettes ou pour ceux qui n'en ont pas, de nos inclinaisons politiques, et au niveau chambre de commerce également, ça a été fait, de pouvoir montrer une volonté, une unité par rapport à ce projet. Voilà. Avant de vous lire ce vœu, est-ce que vous avez des remarques sur le sujet ou est-ce que vous voulez prendre une parole par rapport à ça ? Renaud Leitet.
Il est bien évident que j'ai voté ce vœu comme je l'ai fait au sein du conseil municipal. Ce que je trouve regrettable, c'est de mêler un projet qui était, vous l'avez souligné, qui est déterminant pour le territoire, et je crois qu'il méritait un vœu à lui seul avec le projet du barreau du Calois. On s'est exprimé sur le sujet, les études sont très avancées, il y a déjà eu deux ronds-points qui ont été créés, les études ont été retardées du simple fait d'ailleurs du positionnement de la gare NGV. Donc je pense que ce vœu aurait beaucoup plus de force s'il n'y avait pas ce dernier paragraphe. Je ne dis pas qu'il n'est pas utile de pousser pour ce projet qui est important de barreau du Calois, mais il me semble que pour la cohérence du vœu et au regard de son importance, ce serait peut-être judicieux de supprimer ce dernier paragraphe. Il me semble que ça donnerait davantage de force à notre vote.
Merci Renaud. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à ce vœu-là ? Avant que je vous réponde, alors je vais maintenir ce paragraphe-là, mais je comprends cette... pardon, Denis Capdeviol, je n'ai pas vu.
J'avais reçu ces vœux là par mail il y a quelques temps, et j'ai le même sentiment que monsieur je me rappelle plus son nom, monsieur Leitet, que ce paragraphe effectivement il est pas à sa place. C'est la LGV et la fin du document, c'est plus une histoire entre le conseil départemental et nous. Donc je pensais moi aussi qu'on aurait pu l'éluder, mais c'est mon sentiment moi.
Merci Denis. Est-ce qu'il y a d'autres prises de position par rapport à ça, Guy Sibu, Monsieur Holnet, alors Michel Garcia, pardon. Michel.
Juste dire, c'est vrai que doubler la voie entre le Calois serait bien, mais si la rocade n'est pas doublée, à mon avis, ça n'arrivera à rien. Ça, ce sera toujours le même problème. Hein. Parce que les voitures vont s'empiler au niveau du pompier, ça ne changera pas grand-chose. C'est un avis. Hein.
Monsieur Ollette.
Oui, la LGV, on parle bien de la LGV qui va passer plus ou moins près de Mont-de-Marsan. Il va y avoir donc un arrêt qui va se trouver près de l'échangeur, du barreau du Kawa. Donc, effectivement, faire une double voie, ça rentrerait aussi dans le cadre, je pense, de la LGV, puisque ça permettrait aussi de se rapprocher, de mettre une double voie jusqu'à l'arrêt hypothétique de la LGV qui devrait se rapprocher de Mont-de-Marsan. Donc le paragraphe, à mon sens, est à sa place.
Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole pour passer avant que je fasse une réponse globale et puis vous soumettre ce vœu? Pas d'autres prises de parole? Alors, n'y voyez surtout pas une stigmatisation d'une relation conseil départemental, aglo, ça c'est pas du tout le cas. Là, c'est plutôt une vision globale. C'est qu'il y a le moyen-long terme, j'espère le moyen terme, mais ça peut être quand même du long terme, je veux le voir de mon vivant, qui est la LGV. Et puis il y a le court terme, le court moyen terme, qui sont d'un côté notre Bordeaux, Bordeaux-Mont-de-Marsan via Morsinx. On s'est quand même réjoui que la rumeur qui tendait à dire que la liaison Morsinx-Mont-de-Marsan disparaît, a priori, du moins ce qui était marqué dans le rapport n'a pas été suivi. Donc c'est moderniser d'un côté le train pour essayer d'y aller en moins d'une heure et de l'autre côté avoir un accès plus rapide pour fluidifier des deux côtés. Et l'état d'esprit de ce vœu-là, après je vous laisse libre bien entendu de le voter ou de vous abstenir ou de noter, on notera au PV vos remarques, moi ça ne me choque pas. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on a modifié très sensiblement la terminologie pour parler un peu plus de désaccord. Enfin, il y avait 2-3 petits points qui chiffonnaient. Là, il n'y a pas de souci. Mais je souhaite bien entendu vous proposer ce vœu en l'état en maintenant justement cet aspect-là. Ce n'est pas d'un côté le train, de l'autre côté la route, c'est l'ensemble d'un désenclavement et c'est en ce sens-là... Que je souhaitais vous proposer ce vœu. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques par rapport à ça, et je vous propose de le passer au vote tout simplement. Donc, il s'agit bien d'un acte symbolique. On est bien d'accord que ce n'est pas une délibération classique, mais ça permet d'être dans la continuité de ce qui s'est fait dans d'autres institutions, conseil départemental, chambre de commerce et d'industrie, conseils municipaux. Je crois qu'à Dax également, ils le font. Est-ce que vous souhaitez que je vous lise intégralement ce vœu ou est-ce que vous en avez pris connaissance? On peut gagner du temps. Bon. Donc sur ce vœu, qui est contre, qui s'abstient, donc on a 2 abstentions. Est-ce qu'il y a des procurations? Je ne sais pas si on peut les noter. Et je vous remercie. Donc ça veut dire qu'on a 2 abstentions, pas de voix contre. C'est voté à la majorité. Et dans tous les cas, je tiens à ce que soit marqué dans le PV, les remarques, bien entendu, qui ont été apportées notamment par Renaud Laïtette et Denis Capdeviol sur cette petite nuance concernant le truc. Mais voilà, je souhaitais exprimer ça de manière globale. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a... on a eu un conseil assez court. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez vous exprimer ou est-ce qu'il y a des prises de parole particulières, des points que vous voudriez aborder? Donc, je crois qu'on va pouvoir, pour ceux qui sont fouteux, être à l'heure pour le match. Et sinon, vous avez un casse-croûte qui vous attend. Je lève la séance et je vous souhaite une bonne soirée.